Je risque de faire 20 minutes encore. Mais vous le savez, c'est mon habitude. À la Transfiguration, cet épisode évangélique au cours duquel les apôtres Pierre, Jacques et Jean virent Jésus transfiguré, c'est-à-dire rayonnant de divinité en compagnie de Moïse et d'Élie, sur une haute montagne, souvent identifiée par des orthodoxes ou par des catholiques, au Mont Tabor. La transfiguration indique explicitement le caractère divin et céleste de Jésus. Les évangiles synoptiques racontent cette scène étonnante où Jésus accède dans une nuée lumineuse à l'expression de toute sa gloire éblouissante. La transfiguration enlève le voile pour découvrir et contempler la véritable identité de Jésus. Par sa transfiguration, Jésus dévoile en lui le Christ. Par cette révélation sublime de la transfiguration, Jésus montre qu'il est le Messie, qu'il est le Rédempteur. Ce passage de l'Évangile est crucial, décisif et essentiel. Jésus est reconnu par ses pères, les plus grands prophètes du Premier Testament. Puis, après, beaucoup plus encore, Dieu le Père affirme par sa parole sortant du nuage flamboyant, la filiation divine de Jésus clairement et résolument. Le texte biblique dit « D'une nuage, une voix se fit entendre. Celui-ci est mon Fils que j'ai choisi. » Écoutez-le. Fin de citation. Nous nous retrouvons au cœur de la Trinité par la déclaration de Dieu. Jésus est son Fils, plus grand qu'un prophète. Jésus est une autre facette de Dieu. La parole d'investiture déjà entendue au baptême de Jésus renforce encore cette divulgation qu'il est le Fils unique de Dieu. Il n'est pas le roi des prophètes, il n'est pas non plus le prophète des prophètes, ni l'initié des initiés. Il est beaucoup plus que cela. Il est le Fils unique incarné de Dieu. Il est donc Dieu. Il est un homme-Dieu, le Dieu du ciel, devenu Fils sur terre. Dieu devenu Fils pour accompagner les hommes, pour devenir frère en humanité avec ses créatures humaines. Le Dieu du ciel, le Père, se transforme, se transmute en Dieu sur terre devenu Fils. La même entité divine sur les deux plans différents entre le ciel et la terre. Parce que devenu Fils, le Dieu céleste renonce à sa toute-puissance, à son pouvoir universel. Dieu Fils devient vulnérable, accessible, fragile et mortel par son incarnation en Jésus auprès des humains perdus, cruels, incrédules et mécréants. Dieu descend en Fils pour sauver l'humanité, pour sauver sa création, pour sauver l'histoire des hommes. Il doit, en Jésus, renoncer à toutes les attributions de sa grandeur divine pour s'approcher des hommes. En Jésus, il doit se réduire, s'affaiblir, se circonscrire, se simplifier en Fils pour leur parler, pour leur annoncer le salut par la foi. Au sommet de la montagne, la présence de Moïse et d'Élie aux côtés de Jésus signifie la continuité entre la première et la deuxième alliance. Mais surtout pas la substitution de l'ancienne alliance considérée comme caduque par la nouvelle alliance réactualisée, renouvelée, qui serait alors exclusive en effaçant la précédente. Il y a concomitance et réciprocité entre les deux alliances. L'une renforçant l'autre, se donnant du sens mutuellement, de l'intelligence et de la sagesse, l'une par rapport à l'autre. Les deux alliances, les deux testaments, sont inséparables dans une complémentarité dynamique, constructive et créatrice. Cette simultanéité crée un lien et un dialogue réciproque par la concorde révélée des trois hommes, Moïse, Élie et Jésus. En lumière, ils s'entretiennent dans la considération, l'estime et la ferveur. Ils expriment l'intimité, la proximité, la contiguïté en spiritualité. Par une harmonie divine entre le judaïsme et le futur christianisme. Jésus sur le mont Tabor ne se présente pas comme l'héritier, le successeur de Moïse et d'Élie, mais comme un partenaire, un ami, un associé, un compagnon, un frère. Par leur prière commune, par leur dialogue, par leur entretien, l'un n'effaçant pas l'autre, mais l'un donnant la vie à l'autre réciproquement. Le christianisme n'est pas le dépositaire du judaïsme. Le judaïsme en est sa source, mais pas son héritage exclusif et personnel. La lumière qui transfigure Jésus est à la fois le reflet de la gloire divine, comme pour Moïse au Sinaï, Exode 34, verset 29. et l'anticipation de sa gloire de ressuscité. L'ascension d'Élie, indiquée dans le Premier Testament, qui s'élève au ciel sur un char de feu, sera en correspondance avec l'ascension du Christ. Ainsi, la transfiguration de Jésus sur la montagne n'annonce pas uniquement sa résurrection, mais aussi son ascension future. Comme Élie, il sera entouré d'une nuée qui enveloppera Jésus pour monter directement au ciel, Merkaba. Le dialogue et le face-à-face de Jésus avec Moïse indiquent qu'il a reçu et compris la Torah, car Moïse est l'auteur présumé des cinq premiers livres de la Bible, le Pentateuch, c'est-à-dire la Torah. Moïse est le sauveur du peuple hébreu, lui donnant la possibilité de passer de l'esclavage en Égypte à la liberté en terre promise. Le tout en traversant le désert où seront données les tables de la loi. Jésus, en respect avec Moïse sur la montagne de la transfiguration, reconnaît la libération du peuple hébreu, reconnaît l'enseignement de la loi, car Moïse incarne la loi. Jésus n'annule pas, Jésus n'abolit pas ou n'altère pas la Torah, je veux dire le Pentateuque. Il n'est pas venu pour gommer et corriger la première alliance. Il est venu pour accomplir l'enseignement de la loi et de l'amour. L'enseignement de la loi est aussi l'enseignement de l'amour. La loi ne s'oppose pas à l'amour et l'amour ne s'oppose pas à la loi. Le juriste Jean Calvin l'avait très bien pressenti et compris. Jésus réaffirme une interprétation qui avait été oubliée ou délaissée par certains, celle de la présence de la loi dans l'amour et vice-versa. Telle est la signification de l'accomplissement dans l'événement de la transfiguration. Il y a transmission de Moïse à Jésus et non l'effacement. Jésus ne se substitue pas à Moïse, il s'additionne, il prolonge autrement, sans renier sa source. Son contact avec Moïse n'a pas pour volonté de le rendre périmé, anachronique et archaïque. Jésus se met à égalité, en régularité, en parité avec les enseignements de Moïse et d'Élie. Il ne les domine pas, ils sont en communion, en entente, en enchantement. Telle est la grandeur, la concorde et la beauté de la montagne de la transfiguration. Jésus ne hiérarchise pas, il ne juge pas, il ne condamne pas, mais il communie. Il écoute, il reçoit, il accueille. En présence de Moïse et d'Élie, Jésus les honore, les exalte, les bénit. La montagne est le lieu symbolique de rencontre entre Dieu et les hommes. Jésus, l'homme-Dieu, se devait de monter au sommet de cette montagne pour découvrir consacrer et confirmer sa divinité, sa déité et son éternité. Donc, l'annonce de sa résurrection et aussi de son ascension potentielle. La communion de Jésus avec Moïse et Élie sur la montagne de la Transfiguration indique sa reconnaissance, sa gratitude, sa filiation, sa légitimation dans sa judaïté. Issu du peuple juif, le contexte de la Transfiguration est tout le contraire du reniement, de l'abjuration, du désaveu et de la rétractation. Porté par l'histoire du peuple hébreu, Jésus est le lien, la parenté et le nœud entre la première alliance éternelle et la deuxième alliance renouvelée en éternité, grâce à la première, mais surtout pas contre la première. Le christianisme doit se situer en gratitude et non en animosité et en ressentiment avec la première alliance. Tel est le message glorieux de la Transfiguration. La force visible et éclairante de la Transfiguration se situe dans cette fraternité triangulaire ou ternaire entre Jésus, Moïse et Élie. La sagesse, la force et la beauté. Ce ternaire nourrit notre propre trinité chrétienne du Père, du Fils et du Saint-Esprit, qui lui-même allume et suscite nos trois vertus théologales, l'amour, la foi et l'espérance. Dans Matthieu, chapitre 17, verset 2, je lis ceci. Jésus changea d'aspect devant leurs yeux, pour Pierre, Jacques et Jean. Son visage se mit à briller comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Dans Marc, chapitre 9, verset 3. Jésus changea d'aspect devant leurs yeux. Ses vêtements devinrent d'un blanc si brillant que personne sur toute la terre ne pourrait les blanchir à ce point. Je pense aussi à cette phrase du Christ. Je suis la lumière du monde. Dans la Genèse, la séparation de la lumière et des ténèbres constitue la première manifestation divine. La lumière éclaire notre voie. La lumière éclaire notre cœur. Jésus guide le monde par sa lumière qui purifie, illumine. La lumière rayonne de joie, de paix et d'amour. Le Christ est lumière parce qu'il est la voie, la vérité et la vie. Il nous invite à une vie lumineuse, c'est-à-dire au rayonnement de notre témoignage. La Transfiguration insiste sur les fondements lumineux du Christ parce que juste, pur, parfait, amoureux, radieux, passionné, vrai et accompli. La lumière du Christ est accessible, limpide, visible et accueillante. elle n'est pas si éclatante qu'elle pourrait nous aveugler. Elle ne brûle pas nos yeux. Elle les ouvre pour acquérir sa transfiguration. Sa lumière intérieure d'amour donnée par l'Esprit Saint. La lumière du Christ signifie la victoire de la vie sur la mort. La lumière du Christ signifie la victoire de la justice sur l'arbitraire. La victoire de la délivrance sur l'enfermement. La victoire de l'impartialité sur la corruption. Sa lumière oriente notre vie, guide notre chemin, accompagne nos projets. La transfiguration du Christ illumine le processus de libération qui délie tous les conditionnements. L'homme Dieu en Christ était, est et sera toujours la lumière du ciel et de la terre. Amen.